Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h08, on est de retour sur RMC pour les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Il est 13h08 au Qatar. Vous n'allez rien manquer des huitièmes de finale qui commencent aujourd'hui à partir de 16h. Pays-Bas, États-Unis, 20h, Argentine, Australie. Demain, évidemment, match de notre équipe de France. Émission des grandes gueules du sport largement consacrée à France-Pologne. Le coup d'envoi, c'est à 16h. Demain et à 20h, il y aura Angleterre. Sénégal, toujours avec Christophe Cessieux, Stéphane Brun, Sarah Pitkowski, Simon Dutin. Dans quelques instants, le bras de fer des GG sur l'émotion et la passion invraisemblable autour de l'Argentine. Il y aura une team, c'est fascinant, une team, c'est terrifiant. 11h30, les GG tout terrain, tous les samedis, le reportage de la rédaction d'RMC. Aujourd'hui, la logistique incroyable des supporters des Bleus au Qatar. Les artistes entrent dans l'arène. C'était une semaine de passion autour de l'Argentine. Deux matchs décisifs et tout un peuple qui a tremblé pour sa sélection. Une émotion démesurée, une pression hallucinante sur les joueurs. Le coach adjoint en pleure en plein match. Un sélectionneur qui demande d'arrêter cette folie. Heureusement, les supporters ont rangé les mouchoirs avec la qualification de leur albicéleste pour les huitièmes de finale. Mais cette pression va repartir de plus belle ce soir à 20h pour le match couperet face à l'Australie. Que pensez-vous, les GG, de cette folie qui entoure l'Argentine? Dans le coin gauche, la team, c'est fascinant. Stephen Brun, Simon Dutin. Dans le coin droit, la team, c'est terrifiant. Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, c'est le bras de fer des GG.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Avant de débattre, pièce à conviction, on va retrouver notre envoyé spécial qui suit les Argentins, c'est Florent Germain. Salut Florent.
Salut JC, salut les amis, salut à tous.
Salut Flo.
Salut.
C'est vrai que c'était une semaine où les Argentins, Florent, ont vécu en apnée.
En fait, ils ont donné le sentiment, honnêtement, au début de la Coupe du Monde, d'avoir eu les jambes coupées. Ça s'est ressenti contre l'Arabie Saoudite et aussi au début de match contre le Mexique. J'étais au stade et c'était assez frappant. En fait, le but de Messi a totalement libéré l'albicéleste, les joueurs, les supporters. Et c'est après cette victoire face aux Mexicains, tu en parlais, JC, que Lionel Scaloni, écoutez, le sélectionneur, a lancé un message assez fort. Et il était justement questionné sur l'image assez forte de Pablo Aimar, ancien joueur, adjoint désormais, en larmes submergées par l'émotion et la pression après les buts des Argentins.
Il ne faut pas non plus perdre la raison. Je ne sais pas, j'ai reçu un message de mon frère pendant le match contre le Mexique. Il pleurait, il était parti à la campagne prendre l'air. C'est pas possible. Cette sensation qu'on joue notre vie, qu'on joue plus qu'un match de football, ça ne me plaît pas. Et ça, les joueurs, ils le ressentent sur la pelouse. Il faut faire comprendre aux gens que le soleil va se lever, que la vie va continuer, qu'on gagne ou qu'on perde. Et l'important, c'est la conviction qu'on donne tout, et c'est ce qu'on fait.
Et c'est vrai que suivre l'Argentine, honnêtement, ici à Doha, c'est très particulier. Il y a 400 journalistes au moins d'entraînement, les séances de Messi commentées en direct, 40 000 supporters qui sont à Doha. C'est vraiment énorme pour un pays en crise économique. Et puis aussi les anciens, c'est l'image qui a beaucoup tourné, les anciens qui chantent, les anciens joueurs hein, comme des vrais fans, Batistuta, Agüero, Cambiasso, etc. Et puis cet enjeu dans toutes les bouches chez les suiveurs, cette dernière chance de Messi. Diego aussi, le côté mystique, Diego Maradona qui surveille l'Albi Céleste de tout là-haut. Et tout ça se retrouve dans les paroles d'une chanson chantée dans le vestiaire. Je veux gagner la troisième étoile, quiero ser campeón mundial. A Diego, en el cielo lo podemos ver. Diego, dans le ciel, on peut le voir. Donc, passion débordante ou passion enivrante, je sais que c'est votre débat. En tout cas, Licha Martinez, le défenseur a tranché. Lui, il se nourrit de cette folie.
Cet engouement est positif, sans aucun doute. Et ce n'est pas surjoué, ce n'est pas un jeu d'acteur. On est comme ça, les Argentins. On a cette passion, cette union, cette connexion avec le public qui nous pousse à tout donner sur le terrain.
Et un dernier petit mot avec le capitaine, obligatoire de placer Lionel Messi dans un petit sujet sur l'Argentine. C'était après le dernier match. Il estime, Lionel Messi, que l'Argentine, cette fois vraiment, a retrouvé son équipe et son football.
On a vraiment retrouvé notre jeu. On est redevenu la sélection que l'on doit être et celle que l'Argentine attend, en fait. Ce groupe est très uni, déterminé. Chacun donne le maximum quand il doit jouer. On l'a encore démontré. Cette sélection vit un beau moment et j'espère que ça durera longtemps ainsi.
Voilà, rendez-vous ce soir, 20h contre l'Australie, messieurs, pour une place en quart de finale.
Et tu seras là aux commentaires, messieurs, évidemment, comme toutes les rencontres de l'Argentine. Merci beaucoup, Florent Germain, pour ce papier extrêmement complet sur cette équipe d'Argentine, notre bras de fer. Est-ce que cette passion autour de cette équipe, est-ce que c'est fascinant? Est-ce que c'est terrifiant? On vous pose la question depuis tôt ce matin sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. C'est assez serré, mais il y a une tendance tout de même. C'est fascinant à 60%, c'est terrifiant à 40%. La team terrifiant, vous allez pouvoir débuter Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski et essayer de convaincre les auditeurs qui nous écoutent. Pourquoi c'est terrifiant? Tu as l'air largement convaincu, chère Sarah, tu vas débuter et tu vas pouvoir affronter Simon Dutin et Stephen Brun. La team, c'est terrifiant.
Bah, terrifiant parce que le football en Argentine, alors ce sera pas que l'Argentine, ça dépasse le cadre du jeu, c'est même plus qu'une religion. Je vous rappelle juste que le pape François a reçu sa carte de socios pour être un socios.
San Lorenzo, ouais.
Non, Boca Junior, on lui a offert alors qu'il est supporter de San Lorenzo.
Il a mis la main dans la cheminée.
Ils ont racheté le pape. Oui, absolument. Non, mais il faut comprendre que quand la passion est débordante, comme c'est le cas pour 45 millions d'Argentins, il y a forcément des dérives. Et en Amérique du Sud, en Argentine, quand tu as l'équipe nationale qui joue, tu prends pas un taxi, t'achètes pas un journal, tu vas pas manger au restaurant, la vie s'arrête en fait. Et donc cette pression-là, parce que il y a un dicton qui dit en Argentine, tu peux changer d'église, tu peux changer de femme, mais tu changes pas de maillot.
Mais pourquoi c'est terrifiant ça
parce que quand la passion, elle dépasse le cadre du sport, elle devient terrifiante à un moment puisque la pression est trop importante, le pays s'arrête.
Oui, mais la vie reprend son cours.
Il y a des cicatrices.
Du monde, il y a eu cette passion, la vie a repris son cours.
Mais pas forcément. Il y a eu des cas extrêmes, il s'est passé des choses en Amérique du Sud, dans l'histoire du football, Stephen, qui ont dépassé la raison. Rappelle-toi de cette finale de la Coupe du Monde en 1950 entre l'Uruguay et le Brésil.
Moi non plus,
j'étais pas né. Le Brésil est battu chez lui au Maracana. C'est un drame national. Il y a eu des dizaines de suicides. Les gens se sont suicidés parce que le Brésil avait perdu la finale. Rappelle-toi un peu plus tard, en 69, le Salvador et le Honduras qui s'affrontent pour un match de Coupe du Monde. Ça se termine en guerre entre les deux pays. Et puis encore un peu plus tard, là t'étais né, 1994, la Coupe du Monde, un garçon qui s'appelle Escobar, aucun rapport avec le narcotrafiquant, qui joue avec l'équipe de Colombie, qui marque un but contre son camp et qui est assassiné à son retour au pays. Si ça, c'est pas terrifiant, alors je me demande où se trouve la terreur. Hein, explique-moi.
Mais ça fait partie de leur culture.
Ah bah d'accord.
Mais moi,
j'ai la capacité de me mettre dans la peau des pays comme ça, qui ont cette passion-là, qui vivent pour ce sport-là, qui, l'Argentine, on l'a dit, qui a fait le reportage, je me rappelle plus, Loïc Braillet.
C'est Flo?
Flo Germain disait que l'Argentine est en crise et qu'il était très surpris de voir énormément de supporters. Ça veut dire que les gens se rattachent à ça, ont du baume au cœur avec le foot et que sur une journée, un match d'Argentine, ils s'arrêtent de vivre parce que ça leur permet de pas penser à la misère qu'il peut y avoir.
Oui, mais la défaite
Moi, je le connais au basket en Serbie. Les gens vivent et meurent pour le sport-là. C'est le sport majeur.
Et ça c'est pas terrifiant?
C'est pas terrifiant.
Mais je suis désolé, au Moyen-Âge, tu aurais, lorsqu'il n'y avait pas de foot, tu aurais été complètement en admiration devant la religion, devant Dieu. C'est des choses qui font avancer le peuple, ce truc. On disait que la religion était l'opium du peuple. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que le football, c'est l'héroïne des peuples.
Se souvient des combats à la tête.
On passe
Simon, s'il y a eu une vie avant que tu naisses. Excuse-moi.
passe son temps. Arrête, on n'est pas si loin, on n'est pas si éloigné. Arrête.
Ok, le débat.
On passe notre temps à dire qu'il y a une perte des valeurs, une perte des repères, qu'il n'y a plus de peuple, la perte de la transcendance. Ça, c'est un vecteur de transcendance. Les mecs, ils sont bleu ciel et blanc les jours de match. Il y a un peuple uni. Effectivement, on peut pas bouffer au resto, on peut pas prendre un taxi, mais que t'es les mecs sans danse qui sniffent de la colle dans les barrios ou les intellos, les psys, parce que c'est le pays des psys, hein, l'Argentine. Donc on mentalise tout, hein, c'est la fierté de l'Amérique du Sud. Je suis désolé, c'est un vecteur de transcendance. Ils peuvent pas se blairer. Il y a 5 clubs à Buenos Aires, et quand ça joue, l'Albiceleste, c'est un des noms mythiques dans, mais pour tous les amoureux du football, l'Albiceleste, on connaît leur couleur, un maillot qui bouge jamais, des joueurs mythiques. C'est
si ils avaient un maillot l'autre sport, jour, c'est dégueulasse.
C'est un sport. Je te parle des couleurs habituelles de notre bleu. On a tous les spectres, tu vois, pantelles de bleu, entre le bleu marine, le bleu ciel, la marinière. Eux, leur maillot, ils ne bougent jamais. L'Argentine, ça fait partie quoi? Allez, des trois pays que le monde entier, quand tu regardes une Coupe du Monde, tout le monde se dit attends, il y a l'Argentine qui joue, même si t'as jamais foutu les pieds en Argentine.
Mythique.
Même si c'est mythique, exactement.
Mais
ça transcende l'imaginaire,
mais
pas seulement des Argentins.
Mais c'est les conséquences. Les conséquences de cet engouement qui est démesuré, qui peut devenir effrayant.
On en arrive à se réjouir, mais sur RMC comme ailleurs, en disant regardez TF1, ils ont fait un carton d'audience, les Bleus, le pays derrière les Bleus, l'engouement commence-t-il à prendre? Regardez dans les fan zones, les gens sont sortis de chez eux, ils se regroupent, on se pèle, mais ils vont voir le match, c'est génial, on est tous derrière les Bleus. Et nous, on court après ça pour notre championnat de France de Ligue 1, pour notre équipe nationale.
Mais
on n'avait pas ça, on réussissait pas à avoir ça, on n'a jamais rien gagné.
Non,
on n'a jamais rien gagné
fanatique.
Pendant 70 ans.
Mais que tu sois passionné, il n'y a pas de souci. C'est le fanatisme.
C'est le fanatisme.
Ça va au-delà de la raison.
Mais on ne va pas refaire l'histoire. Il y a des interpénétrations entre la politique.
Moi, je trouve ça inquiétant et terrifiant.
Au niveau sociologique, en Argentine, depuis un siècle, politique et football sont intimement liés. Les anciens dirigeants de football sont généralement...
Dans les derbies entre Boca et River
Plate.
Quand tu as du succès à la tête de ton club de foot, généralement, tu peux briguer la mairie de Buenos Aires. Tu peux même briguer le présidentiel.
Le foot, c'est la nouvelle religion, notamment en Amérique du Sud.
Ils sont pas comme nous, mais c'est aussi pour ça qu'ils ont autant de joueurs de foot. Il y a plus de 1000 Argentins, je crois, qui sont expatriés. C'est les meilleurs joueurs du monde, une des meilleures équipes du monde. C'est normal, c'est formidable, je trouve.
C'est le bras de fer des GG, c'est la pause, quelques instants, c'est la mi-temps, mais continuez évidemment avec ce bras de fer des GG. On va poursuivre la seconde période dans quelques instants.
Je vois pas comment on va pas remonter.
On fait juste un point sur les scores, tu as bien raison, nous sommes partis à 60-40, 60, cette passion autour de l'Argentine, c'est fascinant, 40% pour c'est terrifiant. Vous commencez à gagner un petit peu de pourcentage, on est à 59-41.
Oui.
Il faut continuer les copains, en tout cas si vous avez envie de renverser cette tendance. Et cette fois-ci, car vous perdez des points, c'est à la team fascinant de prendre le pas, de prendre le relais. Et moi, je vous lancerai sur cette question. Quand vous voyez les images, et Florent Germain en a parlé, du coach adjoint qui fond en larmes sur le banc de touche, quand vous voyez l'entraîneur qui dit « mais c'est pas possible, j'envoie un texto à mon frère, lui me dit il est en pleurs, il est parti à la campagne s'exiler, mais c'est pas possible, arrêtez les mecs, c'est que du foot, les joueurs le ressentent. »
Qu'il y a un mouvement effectivement pour revenir un petit peu de
raison.
Un petit peu de raison, merci, un côté un peu plus raisonnable. L'adjoint en question, parce que là, l'entraîneur adjoint, c'est Pablo Aimar, hein, Pablito El Payaso Aimar, joueur extraordinaire pour ceux qui suivent le football. C'est un fragile. C'est un artiste, c'est un petit mec qui dribblait, qui était un créateur, c'est un poète, le mec.
Et
c'est l'adjoint, il a tout gagné en jeune, ça a été une idole de River, il a écœuré tout le monde en Europe, c'est un joueur fabuleux qui est insensible. À côté, il est l'adjoint de Scaloni, qui est peut-être le plus européen des joueurs argentins, qui a retourné le championnat espagnol et le championnat italien, mais qui était tout sauf lui. Lui, c'est un pragmatique. Donc, il faut un petit peu de tout. Les fragiles sur les bancs de touche, ça marche pas. Hein, regarde Sampaoli, regarde Bielsa, regarde Maradona, mais ça fait partie du décorum. Souvenez-vous, après le but de Messi contre le Nigeria, de Maradona dans les tribunes, à qui restait un peu de kérosène au fond du réservoir, mais qui envoie son meilleur majeur à la terre entière. Bon, je veux dire, ça fait partie, ils le savent les mecs, depuis qu'ils jouent en championnat argentin, avant même d'arriver en Europe, ils savent ce que ça déclenche.
Oui.
Je pense que les mecs, ils se nourrissent aussi de ça.
Tout est normal.
Mais les joueurs argentins ont besoin de ça. Moi, je vois pas les joueurs argentins.
Le sélectionneur Neymar le dit, et ça touche les joueurs. Attention, non, ça touche les joueurs. Non, moi, bah, il le dit.
Non. Enfin, Jimmy Brown, qui est le producteur de l'affaire, est là-bas. Il est dans le stade de où il va voir les matchs de l'Argentine. Il me dit, il y a une ferveur fantastique. Rentrer dans un stade,
oui, mais
avoir cette ferveur,
mais personne
en tant que joueur.
Mais on ne dit pas, le contraire sur cette ferveur. Après, quand vous dites que les joueurs ils connaissent cette pression-là, il y a une grande majorité des joueurs argentins qui ne jouent plus en Argentine à l'année, qui sont dans des clubs.
La grande majorité, ils ont grandi.
Donc, cette pression-là, ils ne vivent pas toute l'année avec.
Oui, mais ils l'ont connu quand ils avaient 18 ans, quand ils rentrent sur Monumental ou à la Bombonera à 18 ans. Tu la prends la pression.
C'est tous les 4 ans quand tu es parti de l'Argentine. Et effectivement, tous les week-ends, tu n'as pas cette ferveur qui est totalement démesurée quand tu joues dans un des, par exemple, des 5 clubs de Buenos Aires. Cette pression-là, moi, je comprends que des joueurs qui jouent en Europe ou ailleurs aujourd'hui, que cette pression, elle devienne trop lourde. Voilà, ils sont peut-être nés avec, mais il y a un moment, c'est déraisonnable. Si l'Argentine perd, il va y avoir des émeutes, il va y avoir des dérives.
À Buenos Aires,
et c'est pas effrayant.
Effectivement,
c'est pas effrayant.
Tu muscles un peu la sécurité autour de la fan zone à Buenos Aires, effectivement, lorsqu'ils perdent contre l'Allemagne en 2014, effectivement.
Ou alors t'achètes les arbitres comme en 78 à l'époque du général Videla.
Donc il y a quelque chose d'effrayant. Il y a des dérives et des dérapages qui peuvent arriver.
Alors cette Coupe du Monde en 78, excuse-moi, mais elle était terrifiante. Regarde un peu, va voir ce qui s'est passé quand même là-bas, mais à l'époque de la dictature des généraux, je suis désolé, mais il s'est passé.
Il avait été boycotté justement par certains joueurs comme Hollande. Je crois que Cruyff n'y va pas,
Rocheteau hésite à y aller, finalement il y va. Mais oui.
Il y avait la même ferveur,
les papillitos dans
cette passion qui m'a l'air peut-être exacerbée, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait moins ou plus qu'il y a 4 ans. Est-ce que c'est pas aussi par le fait que Messi joue sa dernière Coupe du Monde et a annoncé que c'était son dernier tournoi et que c'était sa dernière chance pour ramener.
Mais non, c'était la même chose à l'époque de Maradona. Il y avait autant de ferveur, c'est un pays qui vit avec ça.
Donc pourquoi on s'offusque de
cette passion? Ah mais on s'offusque pas.
Mais vous avez en fait, qu'est-ce qui vous fait pleurer?
C'est les dérives, les dérives d'un fanatisme.
Que des gens pleurent, que des gens
le
cardiaque.
Le fanatisme me fait peur.
Vous avez vu que le ministère de la Santé argentin,
mais pas seulement en Argentine. Je suis désolé.
Au Brésil, c'est la même chose.
Le match entre la Belgique et le Maroc, ça me fait peur aussi.
Oui,
mais je suis désolé.
Mais non,
bien sûr. Mais les débordements
quand l'Algérie où le Maroc gagne à Paris.
Ce qui s'est passé lors du match France-Algérie, ce qui s'était passé lors du match France-Algérie est inquiétant aussi. Oui. Moi, c'est le fanatisme qui fait peur et le fanatisme de foules rassemblées qui deviennent complètement dingues parce qu'il y a un ballon.
Non, mais
quand les foules sont normales, tout va bien. Mais quand tu as la folie qui s'empare des gens parce qu'ils sont en train de perdre un match de football et parce qu'ils préféraient tuer père et mère plutôt que de perdre un match de foot, ça m'inquiète, ça me terrorise. Je suis désolé. Excuse-moi si toi ça te fait plaisir. Eh ben tant mieux. Si ça te fascine de voir ces gens s'assassiner ou mourir pour un ballon de foot, eh ben tant mieux pour toi, mais on n'est pas du même avis.
Ok, Simon Dutin, le mot de la fin.
Ils ont rajouter. Le ministère de la Santé argentin, je crois, a lancé un appel en disant attention, il y a une recrudescence des infarctus pendant les matchs de l'équipe d'Argentine. Donc,
attention, Christophe, ce qu'il a fait en France.
Allez-y.
Et ça, c'est pas effrayant.
Allez-y tout doux, mais on verra ça parce qu'effectivement, on s'intéresse à l'Argentine tous les 4 ans pour beaucoup de gens, mais si vous suivez les matchs du championnat argentin, tu vas voir dans les tribunes du Racing, les tribunes de
Boca,
et je parle pas donc seulement de Boca ou River,
tu vas
qui sont
Rosario,
les clubs les plus
c'est la même chose, on est d'accord.
C'est une dinguerie, c'est une folie, et effectivement, c'est un des trucs qui unit à la fois, encore une fois, les Barra Bravas, là, les voyous, qui tiennent un peu les tribunes et le business des places, et puis les gens.
Oui, mais le fanatisme d'un club réunit une certaine population à un moment. Là, on parle de toute l'Argentine.
Moi, justement,
en fait.
Je pense que
donc
tout ce qui permet un trait d'union entre le plus haut de la société est bon à prendre, même si ça peut drainer quelques excès de temps en temps.
Vous avez pu donner tous vos arguments dans ce bras de fer des GG autour de cette passion Argentine. Le match, c'est ce soir 20h entre l'Argentine et l'Australie. Le deuxième, huitième de finale de cette Coupe du Monde. La team, c'est fascinant, l'a emporté. 60%, 40%.
Oh, on est revenu.
Vous êtes revenu au point de départ. Donc,
non,
on peut dire que c'est une sorte. Peut-être que le dernier argument n'a pas fonctionné, c'est vrai, et lui a fait perdre.
Il y a la main de Dieu qui est intervenue.
Pourtant, ils sont raisonnables, les auditeurs d'RMC, non ?
Non, ils sont passionnés par l'émission.
Mais bien sûr.
Et c'est terrifiant. Ils sont fascinés.
Comment on peut être passionné par cette émission
avec des fanatiques tels que Stephen Brun et Simon Dutin? On est bien barrés.
Tiens. Ok. Évidemment, vous suivrez ce match fou face à l'Argentine ce soir, coup d'envoi à 20h. 11h28, on se retrouve dans quelques instants. On va de nouveau parler de la Coupe du Monde avec notre reportage de l'un de nos envoyés spéciaux, Nicolas Pelletier, sur la logistique assez incroyable des supporters des Bleus pour suivre le match et les matchs de notre équipe de France. Avez-vous adoré ce début de Coupe du Monde? Ce sera notre question, oui, non. Peut-être n'êtes-vous pas d'accord? A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h32, de retour dans les grandes gueules du sport pour notre plus grand plaisir. Merci infiniment de votre fidélité, les grandes gueules du sport en mode Coupe du Monde, évidemment, avec le début des huitièmes de finale. Aujourd'hui, demain, l'équipe de France affronte la Pologne, coup d'envoi à 16h. Vous allez tout suivre, toutes les dernières informations sur notre antenne, mais également sur rmcsport.fr. Toujours avec Christophe Cessieux, Simon Dutin, Sarah Pitkowski, Stephen Brun. N'hésitez pas, le 32-16, dans une dizaine de minutes, venez nous dire ce que vous avez pensé des GG. Venez en affronter une, pourquoi pas. Nous avons eu de nombreux débats aujourd'hui dans cette émission, le 32-16, pour venir affronter votre GG. Mais tout de suite, comme tous les samedis à 11h30, c'est l'instant reportage.
RMC, les GG sont sur le terrain.
Depuis deux semaines, plus d'un million de fans vivent la Coupe du Monde sur place au Qatar, tous les matchs au même endroit. Mais pour le moment, l'ambiance à Doha est plutôt normale, loin de l'excitation annoncée des supporters qui se retrouvent aussi avec une logistique hors norme et des imprévus. Nicolas Pelletier, l'un de nos envoyés spéciaux, est donc sur place à Doha. Salut Nicolas.
Salut les GG, salut à tous.
Nicolas, dans quelles conditions vivent ces supporters tout au long de la semaine ?
Alors Doha est aux couleurs de la Coupe du Monde, hein. Pas une rue ou une avenue sans le drapeau d'une nation ou une pancarte aux couleurs de la FIFA, mais l'apparence est parfois trompeuse. Depuis deux semaines, ce n'est pas totalement une ambiance de Coupe du Monde au Qatar, c'est calme, trop calme, Johnny, supporter de la Belgique.
Il ressemble au niveau du nombre de personnes dans les rues, au niveau de l'ambiance, c'est pas la même chose qu'en Russie. Mais les gens sont beaucoup plus réservés et timides, donc ce côté festif Coupe du Monde est beaucoup moins présent ici.
Ce n'est pas nul, ce n'est pas mieux, c'est juste différent. On vit le foot différemment.
Alors il y a quand même des chants des fans sud-américains qui viennent briser le silence de Doha. Heureusement qu'ils sont là, hein. Mais il manque ce petit truc difficilement explicable pour se dire nous sommes en plein cœur d'un mondial. La ferveur monte, surtout en soirée dans le souk Wakif, sur la corniche de Doha et autour des stades. Mais dans la journée, la vie semble arrêtée. Lundi dernier, en plein après-midi, sur l'Ousseil Boulevard, lieu touristique à quelques mètres du stade de la finale, une rue totalement déserte. La chaleur n'aide pas, mais pour trouver une petite ambiance, il faut souvent pousser la porte des hôtels. Dans les bars perchés sur les top floors, Daniel ne regarde pas ses matchs à la fan zone, mais dans ces endroits totalement fermés.
On a l'impression d'être au paradis du foot. C'est complètement occidentalisé là-dedans. Ici, on ne peut acheter de l'alcool que dans ces endroits, dans ces bars. C'est vraiment la fête. Donc les gens restent à l'intérieur, moins dans la rue, à la différence de la Russie ou du Brésil où tout se passait dehors.
Les supporters restent très peu sur Doha, ce qui explique une partie du problème concernant l'ambiance. La durée des séjours est très courte. Ce mondial coûte cher pour les supporters. Il faut donc être le plus rationnel possible en restant 2-3 jours sur zone. D'autres font carrément les 380 km qui séparent Dubaï de Doha pour profiter du mondial. En avion, c'est une heure. Et pour le budget de Nathalie, il y a une vraie différence.
C'est beaucoup plus rentable. Le logement, moi j'étais aux alentours de 2300 euros, mais pour un mois, c'était 12 000, 15 000, 20 000, des prix exorbitants.
Les prix du billet tournent en moyenne à 350 euros, plus de 160 vols quotidiens à l'aéroport de Doha. Juste avant le match contre la Tunisie, on a rencontré Thomas. Il vit à Dubaï et fait la navette pour tous les matchs des Bleus, une sacrée organisation.
Le vol retour, il est à 3h du matin, le temps d'arriver 4h, une heure de décalage en plus à Dubaï, il est 5h, donc on fait souvent le tour du cadran. Il est peut-être un peu moins important que les autres, mais bon, c'est tous les 4 ans, bien sûr qu'on va y aller et on va tout donner pour soutenir l'équipe de France.
D'autres sont inquiets, ils tremblent. Ces supporters veulent absolument assister au 8e de finale des Bleus face à la Pologne demain soir. Mais pour prolonger le séjour sur place, il faut trouver un hôtel et une nouvelle place d'avion. Ce n'est pas gagné, Thibaut, supporter de l'équipe de France.
On devait partir demain soir, c'est ça ? Demain dans la nuit, donc on va voir si on peut décaler le vol d'une journée pour rester et voir le 8e. Pour l'instant, on risque pas parce qu'on n'est pas encore assuré de pouvoir décaler le billet d'avion pour le logement aussi. Il faut vraiment avoir le logement pour pouvoir bouger les places.
Et à chaque fois que l'on parle avec les supporters, ils regardent surtout leur budget. C'est l'élément central de cette Coupe du Monde. François dort dans un camp de supporters à quelques kilomètres de Doha. Et après plusieurs jours sur place, il a décidé de ne pas faire de folie pour le 8e de finale dimanche soir.
Complètement dégoûté de partir de la Coupe du Monde. Hein. J'aurais très envie de rester. Après, voilà, c'est un certain coût. Le budget pour une chambre comme ça, c'est 200 euros par nuit. Donc, pour être raisonnable.
Enfin, en début de semaine, un reportage de RMC et de BFM a mis en lumière quelques ratés de l'organisation, des conditions déplorables dans un fan village au nord de Doha, des douches délabrées, des lits renversés. C'était la mauvaise surprise pour ces supporters français.
C'était sale partout, vous savez, la poussière de chantier jusque sur les lits. Les photos étaient bien sur le site internet et vous arrivez, c'est autre chose.
Il n'y avait pas d'eau, l'électricité, la clim, elle ne marche pas. Elle est branchée, mais elle ne marche pas. Et voilà, la douche, surtout, c'était comme ça.
Le son est mauvais sur la deuxième personne que vous entendez, car pendant le tournage de ce reportage, notre équipe a eu quelques difficultés avec un responsable du camp.
Vous avez une autorisation pour filmer ? Vous pouvez supprimer cette image ? Non, désolé. Ne créez pas de problème dans le pays. Cela peut prendre des proportions énormes. Vous n'avez pas idée. Les choses sont très tendues et vous passerez une mauvaise journée. Et je ne veux pas que vous passiez une mauvaise journée.
Et la bonne nouvelle, c'est que ce reportage diffusé sur notre antenne a servi. Le comité suprême a très rapidement pris la parole pour annoncer des remboursements complets et une option alternative d'hébergement gratuite aux supporters concernés.
Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour ce reportage au plus près de la Coupe du Monde et des supporters avec cette logistique parfois étonnante évidemment pour une Coupe du Monde. C'est compliqué de s'organiser, mais forcément quand ton équipe va loin et que tu as cette passion, tu as envie de les suivre jusqu'au bout. Et demain c'est le match de l'équipe de France, le huitième de finale face à la Pologne. Alors j'avais envie de vous poser cette question, mais GG, ce matin, on vient de terminer cette première phase, les phases de poule de la Coupe du Monde. On va débuter les matchs coup près. L'heure du bilan pour nous. Avez-vous adoré cette première phase du Mondial ? Oui ou non ? Sarah Pitkowski.
Adoré, j'ai bien aimé, ouais.
Avez-vous
bien
adoré, oui ou non ?
Bon, allez, j'ai adoré.
Vas-y. Ok, non mais tu peux dire non.
Oui, mais non, mais non,
je te dis répondez à la question, oui ou non. Stéphane Brun.
Oui, j'ai adoré.
Oui, tu as adoré. Simon Dutin.
Non, j'ai pas adoré.
Non, tu n'as pas adoré. Christophe Cessieux.
Non, j'ai pas regardé.
Simon, c'est tu prends vrai, la main, pourquoi t'as pas adoré ?
J'ai pas adoré parce que bon, si on devait mettre des notes, la première semaine, les premiers matchs de chaque groupe, c'est 5 sur 20. La deuxième semaine c'est 10-11 et on a commencé à vibrer au niveau du spectacle, je vais y venir. La troisième semaine c'était plutôt sympa. C'est vrai que bon, si on fait le compte, l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine, le Japon qui tape l'Allemagne et l'Espagne, le Maroc qui bat la Belgique, l'Australie qui bat le Danemark, la Tunisie qui bat la France. Bon, les surprises, j'ai pas fait le compte, il y a jamais eu autant de si on fait le total de représentants de à la fois l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Afrique en huitième. Donc ça change un peu. Après, au plan du football, bon, on n'a vu aucune équipe qui avait le contrôle des rencontres. On a vu l'Espagne contre le Costa Rica, mais sinon, on a des équipes à réaction qui attendent souvent d'être menées ou d'être coincées par le temps pour.
On dirait Louis, c'est le tweet de Louis Enrique
pour attaquer. Ouais, mais moi j'étais d'accord justement. Il avait été question qu'on en parle un petit peu de la déclaration de Louis Enrique.
Justement, je fais cette précision. Le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, on devait en parler, et après les propos de Nasser Al Khelaifi dans Le Parisien ce matin, on a décidé de changer un petit peu notre conducteur. Voici ce que dit Luis Enrique. Alors c'était avant les derniers matchs qui se sont avérés, les scénarios en tout cas assez incroyables. Nous avons atteint un point où nous nous sommes égarés. La première chose qu'il devrait enseigner aux entraîneurs, dans les cours d'entraîneurs, c'est que c'est un spectacle. Le foot est un spectacle. Il y a 50 000 personnes qui te regardent au stade, puis à la maison, il y a des milliers de personnes. C'est comme aller voir une pièce de théâtre et c'est ennuyeux. À la fin, il n'y aura personne dans le théâtre. Les équipes joue uniquement et n'attaque uniquement que lorsqu'elles sont menées. Voilà son premier constat de cette Coupe du Monde.
Terminer, il a évidemment raison, même s'il y a toujours un petit peu la fierté des Espagnols. Nous, on s'est joué au foot, blablabla. On a bien vu que... Contre le Japon, ils font 20 minutes, tu dis, ils vont leur marcher dessus, c'est vraiment impressionnant. Et puis, ils arrêtent de jouer, ils se regardent jouer et ça devient une caricature. À part la Croatie, donc l'Espagne mise à part lors du premier match, ce que j'ai vu de la Croatie en seconde période contre une équipe de Belgique avec des grands joueurs et qui poussait quand même, ça c'était soyeux, ça c'était vraiment du football délicieux, mais on n'a pas vu ça techniquement, le niveau est pas dingo, on a des équipes solides qui prennent pas de but,
tu racontes quoi comme foot toute l'année hein.
Oui, mais justement, tu passes à la Coupe du Monde, tu te dis qu'on va vraiment franchir.
On a des beaux matchs partout. La Ligue des Champions, il y a quand même des sacrés matchs.
Attendez,
il y a eu des buts, mais il y a eu un nombre prolifique de buts. Il y a eu 120 buts en poule. En 2018, il y a eu 122. Je vois pas une énorme différence. J'ai vu des matchs de foot, il découvre des joueurs. Luis Enrique, il nous sort cette phrase-là pour se faire mousser. Mais Luis Enrique, j'oublie pas que son troisième match, je peux te dire qu'il l'a balancé son troisième match, Luis Enrique. Parce que
les accusations.
Les Espagnols, c'est dans leur couture au basket. Ils nous ont poutré 50 fois
en voilà. Un petit coup de racisme anti-espagnol, ça fait du bien.
Non, mais c'est la vérité. Mais après, je sais bien, c'est pas bien. Okay, donc, t'as le droit de calculer. Mais Luis Enrique, mis à part son 7-0 d'entrée, il est gentil, son équipe d'Espagne. Après, elle a pas fait rêver.
Eh ben, donc, quelle équipe t'a impressionné? C'est la question que je te pose. Quelle équipe t'a impressionné? L'équipe de France fait un gros match contre
l'Australie.
On s'est emmerdé pendant longtemps et au troisième match il y a une part d'irrationnel parce qu'effectivement t'as plus le choix, faut gagner, donc même si tu prends trois buts et que t'en mets quatre tu passes, là effectivement t'as des matchs avec des retournements de situation.
Mais en fait t'es en train de donner les mêmes arguments pour lesquels elle est intéressante. T'es en train de dire qu'effectivement il y a eu des surprises dès les premiers tours avec l'Allemagne, avec l'Argentine et
Ouais, mais je suis désolé. L'Allemagne, quand elle part contre le Japon, à la fin du match, tu dis pas les Japonais ont fait un match extraordinaire.
Non, mais
tu dis les Allemands ont fait un match pourri.
Tu as les ingrédients pour que ça soit spectaculaire. T'as des surprises. T'as aucune équipe qui fait un sans faute sur ces trois matchs. T'as un pourcentage de buts qui est juste énorme. Et t'as deux dernières journées où t'as des matchs qui se jouent en parallèle pour savoir ceux qui vont se qualifier.
Le pourcentage de buts, c'est parce qu'il y en a cinq quasiment par match dans les matchs du 3.
Et t'as eu que 6-0-0. T'as eu que...
Je trouve ça beaucoup, moi, déjà. 6-0-0.
Attends, tu t'es pas régalé sur le Ghana-Corée où il y a 3-2?
Non, mais et un match par-ci, par-là, d'accord. Mais de quoi on parle? On parle d'une Coupe du Monde. Vous retiendrez quoi à la fin de cette Coupe du Monde?
Attends, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie.
Si, ouais, enfin, je te dis, au troisième match, j'ai dit 15 sur 20 pour les troisième matchs.
Il y a un truc qui est catastrophique,
si c'est pas les équipes du Maghreb, les équipes du Moyen-Orient ou Argentine et Brésil, tu regardes les matchs, honnêtement, ça m'est arrivé une bonne dizaine de fois, tu regardes le match en seconde période, il se passe que dalle. Et tout d'un coup, t'entends presque les gens parler dans les tribunes, t'entendais de temps en temps un mec qui souffle dans sa trompette, on se croirait à des matchs amicaux, il n'y a pas d'ambiance.
Oui, mais l'ambiance, elle est pas devant ta télé.
C'est devant ta télé. Mais je suis désolé, on parle de la Coupe du Monde. Les Coupes du Monde, c'est pas que les joueurs. Il y a aussi l'ambiance, le spectacle qui contribue à l'ambiance. Je suis désolé, c'est un tout. Non, j'ai pas adoré. J'ai regardé, mais j'ai pas adoré.
Ok, pour l'instant. Dans cette
oui, évidemment, c'est adoré. Maintenant que la Coupe du Monde débute avec les matchs élimination directe, les huitièmes de finale, les matchs à la muerte, c'est là que ça va débuter. On se souviendra. Ouais, moi non plus, j'ai pas été bluffé. Il n'y a pas une équipe qui sort du lot et qui m'a régalé. Rappelez-vous, on attendait des miracles, des génies brésiliens. Bah pour l'instant, les génies brésiliens moyens, les Argentins qui se font taper par l'Arabie Saoudite. Bon, derrière ils se rattrapent, mais t'es quand même surpris. Toutes les nations, personne qui arrive avec trois victoires au bout de trois matchs. Alors peut-être que le niveau s'est rapproché, mais moi j'attendais plus des équipes vedettes, j'attendais qu'elles nous régalent, qu'elles nous enchantent. Pour l'instant je reste sur ma faim, mais la Coupe du Monde débute maintenant, c'est sûr, à partir des huitièmes de finale on verra. Et puis niveau ambiance, c'est ce que disait Simon, je suis entièrement de son avis. Il n'y a pas de passion pour l'instant dans... Alors la passion, tu en parlais tout à l'heure, il y a la passion et le fanatisme, mais une Coupe du Monde c'est de la passion, c'est le stade Aztèque en 70, c'est la folie dans tous les stades sud-américains. Mais on se disait peut-être que avec toutes les populations qui allaient arriver là-bas, les mecs sont obligés de repartir à Dubaï pour aller dormir revenir le lendemain.
Toutes les populations,
comment tu veux faire une ambiance?
Tu ne peux venir au Qatar que si tu as un billet dans un stade. Donc tu ne peux même pas juste venir vivre la Coupe du Monde de manière festive sans avoir un billet pour un stade. Mm-hmm. Donc évidemment, on savait que l'ambiance... Et ce n'est pas la force du Qatar, son ambiance. On sait très bien.
Cette fin de Coupe du Monde, le vainqueur... Quand celui qui a gagné, on dira pas oui, mais rappelez-vous, il y avait pas d'ambiance les matchs.
Alors, je suis pas d'accord avec toi parce que des grandes coupes du monde qui se sont déroulées dans des pays où la passion était là, eh bien tu t'en souviens encore plus. Ça donne un petit
supplément d'âme. Et je suis désolé, la Coupe du Monde au Mexique en 70, je vous en parlerai dans un C'était mieux avant dans quelques semaines. Eh bien, il y avait non seulement le Brésil mythique de Pelé, mais il y avait cette ambiance de folie dans les stades que tu retrouves pas au Qatar nulle part ailleurs.
Que ça, il fait les teasings maintenant, c'est chronique.
Bien sûr.
Et alors,
il a raison. Bien, on est jamais mieux servi que par.
Tu veux faire une bande annonce? Est-ce qu'on fera pas une bande annonce aussi?
11h46, on se retrouve dans quelques instants avec vous, les auditeurs. Le 32-6, vous n'êtes pas d'accord avec une GG, vous venez lui régler son compte. À tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h50, de retour dans les grandes gueules du sport à partir de midi, les paris RMC. On sera de retour évidemment pour vous parler des huitièmes de finale et vous donner toutes les cotes sur ces huitièmes aujourd'hui à 16h, Pays-Bas, États-Unis, à 20h, Argentine, Australie. Restez bien avec nous, mais tout de suite c'est à vous de jouer les auditeurs.
RMC, les grandes gueules du sport et vous.
Patrick nous appelle au 32-16. Bonjour Patrick.
Bonjour les grandes gueules, comment
Salut
ça
Patrick.
Va
Salut Patrick.
Très bien, bonjour, merci Patrick. D'être avec nous, merci de ta fidélité. Patrick, je crois que tu veux réagir au débat que l'on vient d'avoir il y a quelques instants sur la Coupe du Monde. Est-ce que vous avez adoré? C'était la question posée au GG, c'est ça? Tu veux régler ton compte à quelqu'un?
C'est ça, alors en fait, il y a trois choses que je voulais dire. Alors d'abord, est-ce que j'ai adoré? Moi j'ai adoré le début de l'équipe de France. Alors c'est un peu exagéré, mais puisque c'est le débat, pourquoi j'ai adoré? Parce que on a quand même quatre titulaires et pas des moindres qui ne sont pas présents, hein, Dogba, Pogba, N'Golo Kanté, Benzema et Hernandez. On arrive malgré tout, enfin l'équipe de France arrive malgré tout à battre assez facilement l'Australie qui est au second tour, battre facilement le Danemark qui avait des envies d'être champion du monde cette année. Bref, on passe quand même assez facilement. Deschamps nous fait bricole une équipe et finalement c'est pas trop mal, donc ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi ce vent de fraîcheur de voir des équipes comme le Japon, des équipes africaines passer le second tour, enfin passer être qualifié en huitième de finale, ça j'ai adoré aussi. Je trouve que ça change un petit peu de voir toujours les mêmes équipes. Malheureusement, bien sûr, les Belges, les Allemands, entre autres, en ont fait les frais. Après, alors, c'est peut-être pas vraiment le débat, mais ce qui m'agace un peu maintenant, et je l'avoue, c'est les débats et les critiques permanentes sur l'équipe de France. Qu'est-ce que vous voulez qu'on arrive à faire? Être champion du monde, battre tout le monde 6-0. On a une équipe qui tient la route, on a une belle équipe, on est qualifié, on joue quand même, on est serein. Et quand j'écoute les débats tous les soirs, j'avoue que je coupe l'antenne parce que ça m'agace. Ça m'agace, c'est jamais positif. En plus, ce sont des anciens joueurs de foot qui ont été de bons joueurs, mais qui n'ont jamais rien gagné, qui se permettent. Donc voilà, globalement, oui, j'ai aimé cette Coupe du Monde. C'est pas des matchs fantastiques, et je vous l'accorde. Mais je pense que ce que j'ai aimé, c'est de voir quand même des équipes qui émergent et qui passent le second tour.
Ok, mais voilà, merci Patrick. Juste, je reviens sur ce que tu disais. Je rebondis, évidemment, j'interroge les GG. Simon, je t'ai vu peut-être un peu surpris ou pas.
On peut se réjouir que l'équipe de France soit encore qualifiée. Qu'est-ce qu'on serait en train de dire si on était éliminé? Mais bon, la question, c'est est-ce que vous avez adoré cette Coupe du Monde?
Non, pas ça. Sur les critiques sur les Bleus, est-ce que tu as l'impression qu'on critique beaucoup cette équipe de France?
Mais tout le monde fait pareil. Regarde, et je sais pas, je suis pas allé voir chez les Belges, les Allemands ou ce qu'on dit ce matin. Donc, c'est normal. On cherche toujours des poules. Il faut trouver des problèmes. Il faut nourrir la bête. Encore une fois, voilà la bête médiatique.
Nourrir la bête, parce que moi j'ai l'impression que pendant deux semaines, ou en tout cas pendant 10 jours, il n'y a pas eu de négativité autour de cette équipe de France. Il a commencé à avoir un petit accrochage sur ce match face à la Tunisie, mais après
j'ai trouvé qu'il y avait l'unanimité et que je trouvais que cette équipe de France avait limite conquis plus que par rapport au début 2018. Rappelez-vous, en 2018 on gagnait mais on n'était pas content. Là, j'ai trouvé que le jeu avait séduit plus les Français que c'était le cas en 2018. Après, c'est aussi notre travail sur un troisième match France-Tunisie d'analyser les joueurs qui n'ont pas été performants. Ça veut pas dire foutre le bazar et trouver des polémiques. C'est aussi faire une analyse juste du match qui a pas été bon. C'est pas essayer de trouver des polémiques, il y en a pas. Après, les polémiques, on peut en trouver. Kylian Mbappé qui va pas parler devant les médias. Est-ce que c'est une polémique? C'est pas une polémique.
Une polémique. C'est un fait. Et puis on passe à autre chose.
Dans
ces cas-là, je veux jamais faire de corporatisme, mais c'est très facile d'en faire. Donc, Patrick, moi, je comprends, que certains supporters se disent, mais arrêtez de tourner toujours les choses du côté négatif. Bon, ça crée le débat, ça crée pas le débat. Mais j'ai pas l'impression non plus que l'équipe de France en soit tombée à bras raccourcis dessus.
Non,
mais
non.
bon, peut-être plus sur Didier Deschamps, sur sa compo de match. On va dire, on va là-dessus, il a été beaucoup critiqué. Mais bon.
Ça fait deux ans que, de toute façon, tout le monde veut virer Deschamps avant même les compétitions. Donc bon.
Patrick, rapidement sur ce sujet, mais peut-être que nous avons une version et une vision biaisée, hein, peut-être.
L'autre jour, j'ai entendu, je crois que c'est Manuel Amoros qui disait, il a eu aucun enseignement sur l'équipe B, on va dire. Oui, il a eu un enseignement tel. Il sait aujourd'hui qu'il peut pas vraiment compter sur ses joueurs. Par contre, il peut compter sur eux s'ils rentrent dans l'équipe, s'ils rentrent, je dirais, individuellement. On peut très bien ajouter un joueur avec l'équipe type, ouais, parce qu'il se sentira mieux. Là, on a eu une équipe. N'oubliez pas quand même qu'en 2000, quand on est l'équipe de France est championne d'Europe, personne n'en a parlé. Le troisième match contre la Hollande,
on le perd,
a été perdu. Ouais. Ça ne nous a pas empêché. On n'a rien dit. Ça faisait partie. Regardez, hier, le Brésil a perdu sur le Cameroun, l'Espagne a perdu sur le Japon. Ça fait partie du truc. Et puis, je vais vous dire très sincèrement, je suis né en Tunisie. Eh ben, je trouve que les Tunisiens méritaient leur victoire. Ils ont été plus vaillants. Ils avaient envie de gagner la France, qui est championne du monde. Et puis, on n'a pas été bon. Et ça, c'est un enseignement pour Didier Deschamps. Il sait qu'aujourd'hui, il peut compter que sur 14, 15 joueurs.
Mais voilà, mais je trouve qu'il y avait des enseignements, et quand ils sont pas bons, bah je pense qu'il faut le dire. Alors après, trop critique,
oui,
pas assez critique.
Je suis d'accord, faut le dire, mais il faut aussi reconnaître quand même que vous passez un premier tour d'une façon assez confortable, parce que le Danemark, c'est quand même pas des faciles à jouer. L'Australie.
Merci Patrick. Je suis désolé. Je dois te couper. Je suis vraiment désolé parce que
on n'attend plus Patrick. Là,
non, mais parce qu'on est assez pris par le temps et puis on a compris en tout cas le sentiment général. Et merci d'avoir été avec nous infiniment et à bientôt sur RMC. Vous pouvez dire ce que vous pensez, évidemment, et venez affronter vos GG. Merci Christophe, Simon, Stephen et
demain,
Sarah.
Salut.
On se voit demain à partir de 9h. On parlera largement de ce France-Pologne, évidemment, les huitièmes de finale. Je remercie également Pierre Amiche à la production, Suzanne Folly à la réalisation. Et la Belgique à la maison. Je vous embrasse et on se retrouve tout de suite pour les paris RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.